Direction jeu, la radio insolite. Ah, alors qu'on vient d'apprendre que Didier Deschamps allait quitter l'équipe de France de football après la Coupe du Monde 2026, voilà que je me retrouve avec un footteuf. Attention, c'est pas n'importe qui. Hein. Oula, il s'appelle Franck Buirault. Bonjour le footteuf.
Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction, parce que ce que vous savez pas, c'est que le plus jeune capitaine de l'équipe de France champion du monde, ce n'est pas Didier Deschamps, mais c'est moi, parce que j'ai gagné la Danone Nations Cup en l'an 2000 et j'avais 12 ans. C'est vrai, c'est pas une blague, vous pouvez le vérifier.
Mais Franck, il n'y a pas de problème et tout. Arrête de vous voyez là, j'ai l'impression que j'ai passé les 70 ans là, c'est pas sérieux. Attends, t'étais comme un footeur, puis en plus t'as joué dans un club à trois lettres un peu connu.
Au Paris Saint-Germain, effectivement.
Paris Saint-Germain, ça me dit quelque chose. Hein. C'est Paris Saint-Germain. Ah oui, ça fait du basket. Non, ça fait du volley. Non, je suis perdu là. Bon, donc tu étais parti dans une carrière de sportif.
Tout à fait. Et j'ai eu la chance de me trouver une seconde passion en découvrant le théâtre lorsque j'ai compris que j'allais pas devenir footballeur.
Ah bon, tu gagnes, tu es capitaine d'équipe qui a un titre mondial, mais tu veux pas être footballeur.
Parce que vers 16-17 ans, je me suis intéressé à la culture et au vignoble, et ça faisait pas bon ménage avec le sportif.
Ah non, alors la culture peut-être, le vignoble un peu moins. Bon, on va attaquer très fort dans la rubrique J'accuse. Qui est responsable justement de ce revirement?
Pour Didier Deschamps?
Non, pour toi, pas pour Didier Deschamps, pour toi. Qui est responsable? Tu passes du foot à la culture.
C'est Guillaume Depardieu.
Ouh, excusez-moi du peu là. Là, on a du pain à faire. Guillaume Depardieu. Ah bon?
Mes parents tenaient un bistrot à Bougival dans les Yvelines où Guillaume venait tout le temps et il m'avait pris en affection. J'étais qu'un gamin à l'époque et puis vers 14-15 ans, il me proposait de l'accompagner sur les tournages, et je regardais ça avec des grands yeux, et je me suis dit, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux devenir, et lorsqu'il est mort, ça m'a donné des ailes, je me suis dit, ok, il me voit de là où il est, et je vais faire plein de choses, et je suis sûr qu'il sera fier, et 15 ans plus tard, j'y pense encore, à chaque fois qu'une de mes pièces démarre, je pense à lui, je dis, t'as vu, regarde ce qu'on fait, c'est cool.
D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que, il faut quand même préciser que tu ne montes pas sur scène, toi, d'après les infos que j'ai.
Est-ce que je suis paresseux?
Ah là, je te préviens, je dénonce là. Alors, tu peux y aller.
en réalité, je fais beaucoup de choses. Au-delà d'écrire, je donne des cours de prise de parole en public pour les jeunes du PSG d'ailleurs actuellement et également pour les écoles de commerce. Ça me prend pas mal d'énergie. Et donc, je me suis consacré essentiellement à l'écriture et j'ai donc deux pièces qui vont démarrer. Et si c'était elle, à partir du 10 janvier au Théâtre Montmartre à la Voirie, et Marinella, une pièce que j'ai écrite et qui va être interprétée par Victoria Abril au Théâtre de la Madeleine à partir du mois de février.
D'accord. Tu peux éviter de me piquer mes questions, parce que justement, je vais t'interroger sur Marinella.
C'est bon, je dis plus rien, je réponds aux questions, c'est la genre.
Mais attends, arrête, ne reste pas silencieux quand même.
Je réponds aux questions, pardon.
Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, on commence par si c'était elle. J'aime bien parce que de le pitch que j'ai eu, il s'est marqué l'histoire vraie d'une rencontre virtuelle. C'est une histoire vraie ou c'est une rencontre virtuelle?
C'est tout à fait. La rencontre n'était pas virtuelle, mais j'ai rencontré la vraie Lélé Léopoldine dans la vie. On avait 16-17 ans, justement, lorsque je découvrais les boîtes de nuit.
Je veux sa photo.
Vous pouvez la choper sur les réseaux sociaux, c'est Léopoldine Hugues. Elle est comédienne, elle est productrice également. Et elle est fascinante parce qu'elle a de la résilience, parce qu'elle a constamment de l'humour, parce qu'avec elle, on peut rire du tout, et principalement du handicap, elle prend tout. Et à sa façon, elle nous permet de philosopher, de rester constamment heureux, parce que nous, tout va bien, quoi. Enfin, moi, en tout cas.
C'est elle qui t'a inspiré, ce texte, si c'était elle?
Tout à fait. Un jour, elle m'a invité chez elle. Elle s'est mise à jouer du piano. C'était absolument fabuleux. Je me suis dit, mais je pourrais tomber amoureux. C'est que je trouvais que le talent rendait beau. Donc, j'oubliais son handicap. Et je me suis dit, tiens, après, vu que c'était la découverte pour notre génération des sites de rencontres, etc. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait un mec un peu superficiel comme ça, il arrive au rencard et paf, elle est en fauteuil roulant. Comment je réagirais? Ça m'a amusé de rire de ça.
D'accord. Excuse-moi, tu as dit un site de quoi?
De rencontre.
C'est quoi?
C'est le truc où on croit qu'on cherche l'amour et on repart avec des chlamydia.
Ah, c'est pour ça que c'est la notion de rencontre virtuelle. D'accord.
Exactement.
Oui. Alors, Uber, hein?
Ah, je vieillis.
Ah bah ouais, mais enfin bon, t'as pas encore dépassé les 40 ans, quoi.
Presque, je suis à 36.
Ah bah quand même, presque, t'as encore 4 ans pour y aller, hein.
Merci.
Comment ça s'est passé l'écriture? C'est donc t'as vécu ce moment où elle jouait du piano et c'est après que tu t'es mis devant ta page blanche et que tu as commencé à écrire?
Tout à fait, j'ai pas perdu une seconde et j'ai écrit ça en 15 jours. J'avais tellement de choses à raconter que ça a été très rapide.
Ah mais carrément, 15 jours.
Ouais, je savais tout ce que je voulais raconter, je maîtrisais tout. Les sites de rencontre et le handicap.
Ah d'accord. Ah t'as pas eu besoin d'aller faire un stage pour pratiquer les sites de rencontre.
Non, j'avais déjà donné avant.
C'est quoi l'idée? C'est de montrer la réalité de la vie d'aujourd'hui? Parce que bon, excuse-moi, nous on est un peu plus vieux, on a vécu l'apparition du tam-tam, on a vécu la TSF pour certains, on a vu la télé noir et blanc, etc. Bon, c'est pas même tes mêmes repères. Mais toi, c'est aujourd'hui une évidence que de passer par ces types de relations?
En tout cas, ce qui m'amusait, c'est que sur les sites de rencontres, évidemment, on like des photos. Donc il faut que physiquement la personne nous plaise et on s'intéresse pas à l'âme à l'intérieur. Et à travers cette histoire, eh bien, on comprend bien que l'âme peut rendre amoureux, et c'est ça qui doit nous rendre amoureux, pas une jolie photo.
Oui. Comme disait Ravioli, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la boîte, quoi.
C'est exactement ça.
Excuse-moi, je suis désolé, j'ai des repères qui sont ce qu'ils sont, mais bon. D'accord. Comment est-ce qu'elle a réagi quand tu lui as expliqué que tu avais écrit une histoire sur elle?
Ah, elle était ravie, elle devait même le jouer au départ, mais comme elle a une vie très chargée, ça n'a pas pu se faire. Et c'est pour ça qu'on a dû proposer des castings et trouver un comédien et une comédienne pour interpréter ces rôles de Franck et Lélé.
D'accord. À aucun moment, tu n'as pensé monter sur scène?
Je l'ai fait, c'est juste un peu avant Covid. Et c'est après le Covid qu'on m'a sollicité pour donner beaucoup de cours. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas à la fois avoir de l'énergie toute la journée et en retrouver le soir, que ça allait être trop difficile.
D'accord. Mais bon, c'est quelque chose que tu avais envisagé, donc il n'y a pas de souci.
Je l'avais même fait.
Ah, tu l'as même fait. C'est bien, c'est sympa quand même.
Oui.
Quand on sort, comment les spectateurs réagissent? Est-ce que tu as déjà joué déjà le spectacle? Ou c'est
bien
la
sûr.
Première fois que tu vas le jouer le 10 janvier?
Non, non, on l'a déjà joué beaucoup à Paris. On a fait Avignon l'été dernier. Mmh. Avec en toute modestie, on peut évoquer un succès, puisqu'on jouait dans une salle de 150 places. On a été complet quasiment sur la totalité du festival.
Mais c'est pas mal.
C'était un bonheur, j'étais comme un enfant. Mmh. Et alors il y a deux choses. Alors déjà c'est une ode à l'émotion. Il y a beaucoup de gens qui pleurent même. Alors on rit beaucoup et puis parfois on pleure. Et surtout à Avignon pour tracter, je me suis permis d'inviter toutes les personnes en situation de handicap. Payaient pas, ils venaient. J'étais très curieux de voir comment ils allaient réagir de ça parce que c'est très transgressif par moment. Mmh. Et en l'occurrence, on a une femme en fauteuil qui est revenue à toutes les représentations. Elle a dit tu as décrit ma vie et elle venait tout le temps et elle s'éclatait.
C'est chouette. C'est très chouette.
Oui.
Quand on a fait un Avignon, ce fameux marathon qui dure quand même 3 semaines, autre salle à Paris.
Bien sûr, c'est une drogue. On veut pas s'arrêter, on veut rejouer, 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 rejouer.
Ah carrément, quand même, c'est le coup de la drogue là. J'adore. Tu as donc un deuxième spectacle avec Victoria Abril. Là, alors attention, c'est, j'allais dire, c'est d'une expérience. À ses conséquences, c'est quand même une artiste assez importante. Marinella, ça a un rapport avec Tino Rossi? Ça n'a rien à voir avec Tino Rossi?
Non, non, du tout. Marinella, c'est une marque en réalité qui revient dans la pièce et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Et de ce que je peux vous dire de Victoria Abril, c'est absolument extraordinaire de voir une artiste de son talent au travail. Elle est toujours à l'heure, elle est investie. Je pense qu'elle connaît mieux la pièce que moi et ça m'a fasciné. J'étais comme un enfant.
C'est elle qui a été vers toi ou c'est toi qui a été vers elle?
Absolument pas, c'est un producteur qui m'avait informé que Victoria Abril cherchait une pièce. Je me suis dit, bon, t'as rien à perdre, tente ta chance, j'écris une comédie, pour que c'est une comédie pure et dure, du théâtre de boulevard. Et j'écrivais en me disant, bon, pourvu qu'elle dise oui, parce que je vois pas avec qui je pourrais monter ça autrement. Et un beau matin, elle me dit, écoute, elle a choisi ta pièce. Je dis, non, c'est pas possible.
D'accord. Alors, ce qui est assez original, c'est que autant, et si c'était elle, va se jouer tiens, le vendredi à 21h30 au théâtre du Parc de la Brue, à partir du 10 janvier jusqu'au 28 mars, autant Marinella va démarrer le 8 février jusqu'au 27 avril. Alors, moi, je me demande comment tu vas faire le vendredi, tu vas être obligé de choisir l'un ou l'autre. Même si
temps,
Marinella joue du mercredi au samedi et puis même le dimanche. Mais
c'est
bon.
Ça, je pense que je vais me consoler les autres jours de la semaine, j'irai voir Marinella et puis le vendredi, j'irai voir si c'était elle.
D'accord. Question très intelligente. Pourquoi uniquement deux pièces? Pourquoi il n'y en a pas une troisième?
C'est une question
redoutablement intelligente, hein, celle-là.
Ça devait se faire une pièce entre un grand-père et son petit-fils qui s'appelle de 7 à 77 ans. Bernard Ménez était OK pour jouer le rôle du grand-père et on attend une réponse d'un théâtre parisien. Il y a une chance. Il n'y a rien qui est fait, mais il y a une chance. D'ailleurs, je ne devrais pas en parler, il paraît que ça porte malheur.
Bon, alors on n'en parle pas, on n'en parle pas du tout et tout. Ça fait combien d'années que tu fais ce genre de choses?
Alors, lorsque Guillaume Depardieu est mort, j'ai commencé à m'investir. Je me suis inscrit tout simplement au cours Florent en tant que comédien.
D'accord.
Et puis, petit à petit, je me rendais compte que j'aimais bien l'idée de mettre en scène les talents des autres et pas forcément m'exploiter moi-même. Mmh. Et de fil en aiguille, je me suis mis à écrire et j'ai eu une chance immense parce qu'il y a une troupe de théâtre qui s'était créée dans laquelle était Camille Cotin. J'écrivais beaucoup de sketchs pour Camille Cotin. Évidemment, sa notoriété a fait que ça a eu beaucoup de vues sur YouTube, sur toutes les chaînes comme ça, et ça me donnait de la crédibilité en tant qu'auteur.
C'est bien, tu cites des noms qui sont pas très connus quoi quand même. Camille Cotin, Victor Labonné, Guillaume Depardieu, ça va, je veux dire tu.
Mais Camille Cotin, c'est qu'elle n'était pas connue à l'époque.
D'accord. Oui.
Maintenant, elle joue avec Georges Clooney et Jean Dujardin, elle m'appelle plus.
Georges comment? C'est qui?
C'est un petit gars, un américain, il
George
est pas mal.
Clooney, je viens vous connaître, non, je sais pas. D'accord.
La tue pour le café.
Avec tout ça, est-ce que tu prends un rêve?
Bien sûr, toujours. Je veux écrire encore d'autres pièces, j'aimerais, pourquoi pas, un jour passer au long métrage, j'ai écrit un scénario, du moins. Et d'ailleurs, c'est l'adaptation de Si c'était elle, mais ça s'appellerait Si c'était lui. Ce serait le garçon qui sera en situation de handicap. Et je pense très fort, il est au courant à Théo Curin. C'est le jeune homme qui a été vice-champion olympique alors qu'il a amputé des quatre membres.
Exactement, un très grand bonhomme. C'est un très très grand bonhomme.
Ouais, je le mets dans la case des héros, moi.
D'accord, ok. Et c'est donc toi, pour toi, une évolution naturelle que de passer derrière la caméra, de passer au milieu du cinéma?
Si ça se faisait pas, j'en serais pas triste. Mais oui, c'est effectivement un fantasme, c'est quelque chose de nouveau et ça me motive. Tout ce qui est nouveau me motive.
Alors, tiens, m'excuser parce que la question pourrait être peu diplomate. Est-ce que c'est pas un peu entre guillemets à la mode de parler des handicapés en ce moment?
C'est vrai, mais tant mieux parce que ça nous permet de surfer dessus. Mais en réalité, la pièce, et c'était elle, date de 2019. Il n'y avait pas eu encore le film d'Artus, et puis j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de spectacles qui se développaient autour du handicap, mais c'est tant mieux, j'avoue pas ça. Je trouve ça vraiment génial parce qu'on commence à banaliser et à normaliser surtout le handicap, à en rire, à en s'émouvoir, et je trouve ça très très bien. Donc que ça passe par les autres ou par moi, je suis heureux tout de même.
D'accord, ok. Je tiens à rappeler, comment dire, qu'à Cannes, en 2024, il y avait un incident assez conséquent, puisque le partenaire du film d'Artus avait refusé de les habiller. Il leur avait dit, mais maintenant, non, si vous voulez, vous payez. Et ça avait fait quand même un sacré scandale sur la croisette pour voir ce qu'est devenu un film, le film. Et puis les Jeux Paralympiques à Paris ont été un véritable succès. Et ça, c'est important. Ça montre bien que ces gens-là n'ont aucune différence avec nous. Comme tu disais, ils ont un corps, ils ont une âme, ils ont des sentiments, ils ont plein de choses, quoi. Et ils peuvent faire des choses plus qu'extraordinaires. Ça, c'est important.
C'est vrai. Et souvent, ils nous font plus rire. Ils se posent moins de questions sur le quotidien, etc. Tout devient plus simple, étonnamment, avec eux, paradoxalement, plutôt.
D'accord. Tu vas jouer dans des structures qui accueillent ce type de handicapés?
Tout à fait. On a joué à Sens au mois de novembre que pour un public handicapé moteur. Mmh. Et c'était tellement agréable.
C'est une excellente thérapie, en fait.
C'est vrai. En fait, égoïstement, je peux même dire, mais ils me font du bien, finalement, ces gens. Pas parce qu'ils ont plus de problèmes que moi. Bien au contraire, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il faut profiter de tout, tout savourer. Chaque moment de bonheur, c'est précieux. Et c'est important d'avoir conscience de ça.
D'accord. Tu sais déjà où est-ce que tu vas après le 28 mars avec la pièce?
Aucune idée, c'est le charme du théâtre. Si ça marche pas, bah on abandonne, on arrête, il se passera rien. Et puis si ça marche, on peut aller dans des théâtres plus grands, jouer plusieurs fois par semaine, etc. Et c'est le charme du théâtre, on sait jamais jusqu'où ça peut aller.
Le théâtre Montmartre-Galabru étant à Paris, est-ce que tu vas aller faire un tour en province? Tu as déjà des pistes ou pas du tout?
On a quelques dates de tournée suite à notre Avignon. Mmh. Les prochaines qui arrivent, c'est le 7 février en Savoie à Saint-Jean-de-Maurienne.
Mmh. Saint-Jean-de-Maurienne, on se demande pourquoi.
Ah ouais, je suis originaire de Saint-Jean-de-Maurienne, ah bah donc ça me permet de vous
l'aider. C'est pas moi qui l'ai dit, hein.
Ah, mais pour mes grands-parents qui ne se déplaceront pas à Paris, donc je suis content.
D'accord, ok. Ok, donc Saint-Jean-de-Maurienne, très bien. Si on veut te retrouver, si on veut avoir des infos sur toi, sur la pièce, comment est-ce qu'on fait ?
Eh bien, sur les réseaux sociaux, je suis assez actif concernant mes pièces de théâtre et je m'appelle Franck Buirod, B-U-I-R-O-D, avec le chiffre 1 derrière sur Instagram ou sur Facebook, c'est Franck Buirod tout simplement. Et je me fais un plaisir d'échanger avec les gens, je suis très réactif sur les réseaux.
Ok, bah, écoute, je vais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous faire découvrir tout cela. Je pense que tu dois être très détendu à quelques heures du démarrage.
Honnêtement, ça va. J'ai juste hâte que ça redémarre comme ils l'ont beaucoup joué à Avignon. Ouais. Et quand c'est après, il y a une nouvelle distribution qui va prendre le relais. J'ai hâte de retrouver mes copains d'Avignon et puis j'ai hâte de découvrir les autres. Et je suis heureux vraiment, sincèrement.
Bon, bah, c'est le principal. En tout cas, merci d'avoir pris ces quelques minutes. Et puis, comme on dit dans le spectacle, toujours, toi.